J'ai eu des discussions, effectivement, entre autres avec Doug Ford. On est tous les deux d'accord pour dire, un, faut être plus prudent encore avec les vols internationaux. Donc, entre autres, les vols qui proviennent de pays comme l'Inde ou le Brésil. Ensuite, on doit en faire beaucoup plus sur les mesures pour les passagers qui arrivent au niveau terrestre.
On vient d'entendre François Legault en point de presse. Avec nous, Richard Béliveau, professeur émérite en biochimie à l'UQAM et chroniqueur au Journal de Montréal et de Québec. Et je vous invite à le lire aujourd'hui. Monsieur Béliveau, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Là, comment je commence ça? Le premier cas de variant indien rapporté hier au Québec. La Colombie-Britannique en rapporte 39. Là, on va pas commencer à chanter, c'est le début d'un temps nouveau, là, Richard. Là, c'est ça annonce pas bien, ça, là, non?
Je pense, quand j'enseigne à l'université, j'ai une phrase que j'utilise pour les virus. Tous les variants sont, c'est comme en droit, tous les variants sont non coupables jusqu'à preuve du contraire.
OK.
Bon, alors, pour un virus, comme pour toute forme de vie, les mutations sont des événements normaux. Les mutations, ce sont des changements qui apparaissent strictement dus au hasard. Un virus n'a pas d'intelligence, il n'a pas de destin, là. Il réagit, il mute de façon complètement aléatoire. Et quand vous avez un virus qui se reproduit en milliards d'exemplaires, ben l'apparition de mutations, c'est un phénomène tout à fait normal.
OK, alors, mais je vous arrête, Richard. Quand vous parlez de mutation, là, qu'est-ce qui arrive, ouais, là? Qu'est-ce qui arrive au virus comme tel?
Le virus, c'est quelques protéines. Vous savez, une cellule humaine, c'est des dizaines de milliers de protéines différentes. Mais un virus, ce n'est que quelques protéines. Et c'est l'ARN qui subit des transformations, le code génétique du virus, qui, par la division cellulaire, par l'action des ultraviolets, par l'action d'agents chimiques, il y a des modifications dans la séquence génétique du virus. Et une mutation, c'est ce qui donne lieu, c'est ce qui donne naissance à un variant. Une mutation, c'est un changement dans l'ordre, dans la séquence de programmation du gène. C'est comme si vous aviez un code informatique, puis que vous changez une ligne dans le code informatique, vous allez avoir un changement dans le programme, c'est la même chose. Les mutations qu'on observe sont des mutations ponctuelles. Ce sont des mutations à un endroit donné. C'est pour ça que ça porte des lettres, codes. Quand on a E484Q, ça veut dire qu'en position 484 de la séquence, E, ça désigne l'acide glutamique, puis Q, ça désigne une glutamine. Il y a eu un acide glutamique qui a été remplacé par une glutamine. Et cette conséquence, ce changement biochimique-là va avoir un impact un peu comme quand vous avez un caillou, un petit caillou dans votre soulier. Le petit caillou dans votre soulier va vous faire marcher de façon différente. Si vous regardez la grosseur du caillou dans votre soulier par rapport à la grosseur que vous êtes, le caillou est insignifiant, mais il va avoir un impact sur votre façon de marcher.
Okay.
C'est ça une mutation.
Mais quand...
Les mutations sont des événements aléatoires ponctuels dans la structure d'un virus.
Comprends. Je comprends, Richard, mais je fais mon smart, là, tu sais. Mais quand, comment se fait que, quand on parle de variants, là, quand on parle de mutations, ouais, Richard Béliveau, comment ça se fait qu'on n'en parle jamais de façon, est-ce que le coronavirus, là, s'affaiblisse? On dirait qu'à chaque fois qu'il y a un variant où il s'amplifie ou il se renforce.
Oui. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est faux. Il y a eu 136 millions de cas de COVID répertoriés à l'échelle mondiale. Il y a eu 1 million de séquences de fêtes de virus. Et il y en a juste 5 sur ces millions-là là, qu'on rapporte comme étant à surveiller, comme étant des suspects potentiels. La majorité, vous le dites très bien, la majorité des mutations vont être sans conséquence. Elle mute. Vous avez un caillou dans votre poche, ça change rien. Vous changez de portefeuille ou de couleur de votre chemise, ça change pas votre comportement cette journée-là. La majorité des mutations dans toutes les formes de vivants sont anodines et sont n'ont pas d'impact sur la fonction de la cellule ou de la protéine en question. Alors, c'est ce qui joue, c'est quand la mutation se fait sur un endroit donné de la protéine. Ça, okay. C'est important de le noter.
J'allais voir un de vos textes, Richard Béliveau, là, vous disiez, vous écriviez, le variant britannique vous inquiète pas vraiment, là. Le variant sud-africain, vous posait déjà un peu de problème. Et là, aujourd'hui, vous dites, il est trop tôt pour s'inquiéter du variant indien. Quand on lit ça, là, le lecteur moyen, là, comment on doit décoder ça? Comment on doit comprendre ce qui se passe? Parce que là, on dit à Justin Trudeau, ferme les vols, interdit les vols internationaux dans les aéroports internationaux du Canada, parce que là, on fait rentrer le variant. Alors nous, là, comment on fait le lien entre les deux?
Je pense qu'il faut, pour qu'un variant soit problématique, il y a trois niveaux. Il faut que son infectiosité soit augmentée. Il faut qu'il présente un potentiel d'infection plus grand.
Ça, c'est le cas du variant indien.
Ouais, légèrement.
De 20%.
Ouais, c'est ça. Mais deuxièmement, il faut que la dangerosité soit plus élevée. Il faut qu'il y ait un impact clinique qui rende les gens plus malades, et ainsi de suite. Ou troisièmement, il faut que la mutation présente un potentiel d'évasion par rapport aux vaccins qui ont été développés, par rapport aux anticorps ou par rapport au système immunitaire.
Okay.
Si un de ces trois critères-là est rencontré, la mutation en question devient sur la hot list, là, la liste du FBI des plus recherchés, des criminels les plus recherchés. Mais devenez un suspect potentiel. C'est comme ça qu'on mesure ça.
OK, dans mais je tout, disais que... Le variant, excusez-moi, mais le variant indien là, réduisait l'efficacité des anticorps de plus de 50%. Est-ce que c'est vrai? J'ai lu ça dans un journal de l'Inde, là, le Hindustan Times.
Ouais, mais il faut faire attention. On est au tout début et quand ces études-là sont rapportées, ce sont des études qui sont faites in vitro, en laboratoire,
okay.
Avec un anticorps donné. Quand vous injectez un vaccin, vous injectez, dans le cas des vaccins qui ont été développés, là, c'est ou de l'ARN ou de la protéine, mais ça code pour la protéine S, là, la clé moléculaire qui permet au virus de rentrer dans les cellules. Et votre système immunitaire, si vous regardez la taille de cette protéine-là, c'est à peu près la... Mettez que la protéine, c'est la taille d'un être humain, la taille d'un corps. Mmh. Ben, les anticorps vont réagir sur toutes sortes de portions du corps. Il y a des anticorps qui vont réagir contre l'œil gauche, il y a des anticorps qui vont réagir contre l'œil droit, il y a des anticorps qui vont réagir contre la hanche. La réaction du corps à l'injection d'un vaccin, c'est une réponse qui donne une diversité d'anticorps. Il y a plusieurs anticorps de former en même temps. La réponse est monoclonale, mais globalement, c'est un ensemble d'anticorps que le corps produit. Ce qui fait que la seule façon de mesurer le fait qu'un variant échappe au système immunitaire de façon épidémiologique, c'est de voir son impact au niveau de l'augmentation de l'infection, des décès ou de l'hospitalisation causée par le variant. Dans le cas de l'Inde, c'est ce qu'on dit dans notre texte de ce matin, la situation est compliqué à interpréter parce que les Indiens ont relâché de façon draconienne leurs mesures de santé publique dans les derniers mois. On a vu les parties aux Indes, les fêtes religieuses, c'est pas des dizaines, c'est des milliers de personnes qui sont ensemble, qui sont collées les uns sur les autres sans masque. Et c'est difficile à ce stade-ci de distinguer simplement un impact du relâchement des mesures de distanciation et de masque, de l'impact d'un nouveau variant.
Si c'est le cas, Richard, ça veut pas dire non plus de laisser aller, là, de dire on va attendre de voir ce qui arrive. Moi, je pense que les mesures de précaution devraient être augmentées dans ces cas-là jusqu'à temps qu'on conclue la vérité.
Absolument, absolument. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que l'Inde est en train de faire aujourd'hui. Puis c'est la raison pour laquelle il y a des mesures politiques qui vont être faites pour restreindre les vols avec l'Inde, isoler de façon efficace tout ça. Mais les variants, il va en avoir d'autres, M. Dutrisac. Là. On est juste... Ça évolue continuellement, un virus. Là. Ce qu'il faut, c'est pour arrêter de paniquer avec chaque nouveau variant qui va apparaître d'un point de vue citoyen. Puis dire qu'il y a des spécialistes qui monitorent ça à l'échelle internationale, qui suivent ça, Et s'il y a des mesures à prendre, que ce soit des mesures politiques ou que ce soit des mesures de vaccination ou que ce soit des mesures plus draconiennes d'isolement, ces mesures-là vont être prises parce qu'il y a des organismes qui suivent ça de façon très, très, très précise.
Je comprends, mais...
vous inquiétez de façon individuelle.
Ah, mais Richard, je suis un inquiet, là, vous le savez, là. Je suis un inquiet, moi, dans la vie. Non, mais en même temps, là, tu sais, le virus, le coronavirus qui cause la COVID-19, là, il est rentré parce qu'on a tardé aussi à fermer les vols internationaux. C'est ça, la réalité. Dites-moi une chose, Richard. Le coronavirus qu'on connaît aujourd'hui, en avril 2021, est-ce que c'est le même que celui qu'on a découvert en janvier 2020?
Oui, c'est le même. À quelques mutations près, là, mais c'est le même virus.
C'est pour ça que les vaccins vont être efficaces ou non?
Ben oui. Ben, c'est ce qu'on a observé à date avec la majorité des variants qui ont été monitorés. Il n'y a pas de diminution. Il y a des petits changements dans l'efficacité globale des vaccins, mais l'efficacité des vaccins est tellement élevée que c'est on est entre 95 puis 88 là.
Ouais.
C'est pas à un moment donné, quand un vaccin est très, très, très efficace, il faut, parce que quand les gens parlent de mutants ou de variants, ils voient des monstres, puis ils voient des films de science-fiction avec trois têtes puis des bras verts.
C'est pas ça?
Des mutations sont des mutations, c'est très petit. Vous le voyez pas. Si vous regardez le virus, si vous le regardez, vous verriez pas la différence entre les virus. C'est des changements très subtils à l'intérieur de la structure moléculaire de certaines protéines. Et comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, pour la majorité de ces mutations-là, les conséquences vont être nulles sur son infectiosité, sa dangerosité ou son potentiel invasif.
Okay.
C'est certains d'entre eux, comme l'Indien, qui méritent d'être sur la liste des suspects, mais non coupable jusqu'à preuve du contraire.
Mais là, faut faire l'enquête.
Faut
avoir le procès, faut faire l'enquête.
C'est ce que tous les scientifiques de la planète font présentement. Ils suivent ça de façon... Je vous rappelle, je l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé ensemble, la façon géniale dont les virus ont été conçus, ils ont été conçus avec la protéine qui permet au virus de rentrer dans les cellules. Ce qui fait que si le virus se met à muter dans cette portion-là pour échapper aux anticorps et au système immunitaire, il va être dans une impasse évolutionnelle parce qu'en même temps, ça va l'empêcher de nous infecter. Fait qu'il y a une espèce de, on appelle ça un dead end,
un cul-de-sac
évolutionnel qui fait que le virus, sa capacité de mutation est restreinte par rapport à... Généralement, quand on fait un vaccin, on injecte le virus au complet ou on injecte... Dans ce cas-ci, on a conçu, c'est la raison pour laquelle ces vaccins-là sont si efficaces, on les a désignés pour qu'ils soient justement ciblés vers la portion la plus vulnérable du virus qui est sa voie de pénétration pour nous infecter.
Okay.
C'est la raison pour laquelle les vaccins sont efficaces et qui risquent d'être efficaces. Ils l'ont été en Angleterre et en Afrique du Sud. Avec les variants sud-africains, les vaccins ont marché. En Angleterre, avec le variant britannique, les vaccins ont super bien marché. En Israël, le pays le plus vacciné sur la planète, la vie est revenue normale. Là, les gens ont enlevé le masque, ils fonctionnent de façon normale. Puis il y a des variants qui ont circulé là comme ailleurs.
Il faut
être prudent, mais il ne faut pas ne broyer que du noir.
Oui, non, mais vous
l'ensemble
faites
des nouvelles est bonne.
Mais vous faites bien de le dire, Richard, parce que vraiment tout le monde est à bout, hein. On le constate, vous le constatez.
Exact.
Puis je pense dans les médias, c'est important de rapporter la vérité, rapporter les données scientifiques, là, pas des impressions, des opinions, parce que
non.
Tout le monde. Je veux finir l'entrevue en utilisant la conclusion de votre texte aujourd'hui, Richard Béliveau. Vous écrivez, ce n'est que par la combinaison de la vaccination et de notre discipline à restreindre nos contacts que nous viendrons à bout de cette pandémie. C'est ça la conclusion. Hein?
Exact. Vous avez entièrement raison. Moi, je vous dis, je suis très, 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 très fier de ce que les Québécois nous avons réussi à faire. On s'est discipliné de façon remarquable. On est à bout, on est épuisé, on est vidé. Mais c'est la raison pour laquelle on a des chiffres, on a des statistiques qui sont très bons. On est parti avec deux prises au bâton, là, avec les CHSLD. On a raté notre coup de façon magistrale, mais on s'est rattrapé. Les gens ont fait preuve de discipline, ils ont fait preuve de cohésion sociale, de responsabilité sociétale. Et on est avec une campagne de vaccination qui fonctionne très bien. Si on continue d'être discipliné pour les quelques semaines qui nous restent jusqu'au moment où on va avoir un 50 à 60 % de la population vaccinée, on va pouvoir retrouver une normalité qu'on n'aura pas autrement si on baisse les bras. Si on ne fait pas attention. Il reste quelques semaines de discipline.
Vous savez quoi? J'ai tendance à estimer votre opinion, Richard Béliveau, parce que vous êtes professeur émérite en biochimie à l'UQAM, puis moi, je ne le suis pas. Fait que j'ai comme tendance à dire, il doit savoir de quoi il parle, lui, Béliveau. Bon, Richard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'est important. Ce que vous faites là comme travail là en temps de pandémie, c'est vraiment important. Je voulais juste vous le dire pour qu'on comprenne à quoi on se frotte, mais aussi pour pas qu'on tombe dans la paranoïa, là, parce que c'est ce qui est en train d'arriver.
Exact.
Merci, Richard. Exact. À la prochaine.
Bonne journée.
Au revoir.